Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Monsoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Nicolas Delmas. Troisième temps de notre série que nous consacrons aux forces armées dans le monde. Lundi, nous suivions nos troupes en Syrie et en Afghanistan. Hier, c'est en Amérique latine, du côté du Brésil et du Venezuela, que nous observions la complexe relation de pouvoir civil et militaire. Aujourd'hui, cap sur la Chine, de Taïwan à Djibouti, l'armée populaire chinoise sur tous les fronts.
Ici, je donne mes ordres. L'armée, à tous les niveaux, doit renforcer l'entraînement militaire et se préparer à la guerre. Il faut imposer un esprit martial. Il ne faut pas avoir peur ni des épreuves, ni de la mort.
Le président Xi a proposé de construire une armée de premier rang. L'armée de premier rang signifie l'armée la plus puissante au monde, plus puissante encore que celle des États-Unis. Dans deux ou trois décennies, en 2049, nous dépasserons les États-Unis en termes de puissance militaire. Ça ne fait pas le moindre doute.
En ce qui concerne les installations d'autodéfense adaptées et nécessaires que la Chine construit sur les îles et sur les récifs, tout cela est conforme aux lois pour la préservation et la protection de la Chine en vertu du droit international.
Voilà, quelques extraits, notamment des extraits du documentaire Le Monde selon Xi Jinping, qui avait été diffusé sur Arte en décembre dernier. La semaine dernière, le gouvernement chinois annonçait une nouvelle hausse du budget des armées de 7,5% pour l'année 2019. Une hausse qui s'inscrit dans un effort de développement et de modernisation de l'armée populaire de libération. Une armée qui désormais entend bien sortir des sentiers battus et se projeter à l'extérieur de ses frontières pour se frotter aux autres puissances militaires. Car en effet, si la République populaire de Chine s'est longtemps représentée comme une puissance en retrait, uniquement défensive, privilégiant une armée de fantassins face à des troupes occidentales vouées, elles, à la projection, eh bien ce temps semble bien révolu. Et depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la priorité n'est plus le territoire national, mais bien une aviation, une marine de pointe, des bases à l'étranger, le tout pour projeter la puissance chinoise dans le grand jeu mondial. Alors, quels sont les objectifs militaires de la Chine? Comment développe-t-elle ses capacités militaires? Et que nous disent-elles aussi de sa perception des menaces? Pour évoquer ces questions et d'autres encore, Mathieu Duchâtel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne et puis auteur entre autres de Géopolitique de la Chine qui était paru au PUF en 2017. La semaine dernière, on va commencer par parler budget, Mathieu Duchâtel. La semaine dernière, le Premier ministre Li Keqiang a annoncé devant l'Assemblée nationale populaire les dépenses pour cette année en matière d'armée, de budget pour l'armée, et elles seront en augmentation de 7,5%. C'est un tout petit peu moins que l'an passé, on avait une augmentation de 8%, mais c'est quand même une augmentation. Et si on replaçait un petit peu ce chiffre dans une perspective un peu plus globale, c'est un budget en hausse, plutôt en phase de décélération. Comment décrypter tout ça?
Alors, on est face à la deuxième puissance militaire en termes de dépenses d'armement. 178 milliards de dollars donc pour l'année 2019, annoncé par Li Keqiang à l'Assemblée nationale populaire. Sur les dernières années, on est à une hausse annuelle autour de 7-8%, ce qui représente quand même, bien sûr, vous l'avez dit, une décélération par rapport à ce qui a été le pic en 2009.
Oui, on avait des augmentations de plus de 10% à l'époque.
C'est ça, on a eu une augmentation à deux chiffres au début des années 2000. Et donc, évidemment, l'armée chinoise accumule ces augmentations de budget et change d'échelle. Je pense que c'est le plus important. Il y a deux choses à dire sur le budget. D'abord que le budget annoncé n'inclut pas toutes les dépenses militaires de la Chine, donc il y a une distinction à faire, et n'inclut pas en particulier trois choses assez importantes. La première, c'est les dépenses en matière de recherche et de développement. Et la Chine a une industrie d'armement qui est de plus en plus performante. Il est difficile d'estimer ses dépenses de recherche et de développement. On dit parfois qu'elles sont autour de 10 milliards de dollars par an, ce qui représente, disons, le budget de la défense de Singapour, donc de certains pays assez avancés. On dit parfois qu'il faut le calculer autrement, qu'on est plutôt de l'ordre de 20 milliards de dollars. Mais il y a un véritable effort que ce budget officiel ne reflète pas. Le deuxième point, c'est les importations d'armement, qui ne sont pas incluses non plus dans ce budget officiel. Il y en a de moins en moins, mais elles continuent d'exister. Il y a une relation de défense avec la Russie qui reste importante pour la Chine. Il y a certains matériels que la Chine continue d'acheter à la Russie.
Voire un problème de dépendance, mais on y reviendra.
On y reviendra. Et le troisième élément qui n'est pas inclus dans ce budget, c'est les dépenses en matière de, je dirais, sécurité intérieure militarisée, donc la police armée du peuple, qui est une force paramilitaire qui a des responsabilités en matière de protection des frontières, par exemple.
Donc c'est un budget qui, en réalité, est supérieur probablement à celui qu'on nous annonce, en
c'est
plus.
C'est un budget qui est sans doute des dépenses militaires totales qui sont au-delà de 200 milliards de dollars par an.
Si on regarde là, pour cette année officiellement, on a 1190 milliards de yuan, c'est-à-dire à peu près 157 milliards d'euros. À quoi va servir cet argent cette année, outre les frais de fonctionnement? Cette année, cet argent, ça va servir à quoi en particulier? Quels investissements on va faire cette année?
Alors, il y a beaucoup d'acquisitions en matière de production de l'industrie d'armement chinoise, la marine, l'armée de l'air, les forces missilières ont tous des programmes d'acquisition qui sont des achats auprès de l'industrie d'armement chinoise. Ça représente une part importante de ces dépenses. Et puis, il y a l'entretien d'une force qui reste près de pléthorique. Donc investissement, maintenance, maintien du niveau de vie de l'armée, voilà, c'est des répartitions qui sont assez classiques. Mais ce qui est assez particulier dans le cas de la Chine, c'est qu'elle communique peu sur la répartition de ses dépenses au sein de ce budget de la défense.
Vous dites que quand même il y a un domaine dans lequel la Chine a fait des efforts particulièrement notables ces dernières années, c'est l'amphibie. Les capacités de projection via la marine se sont considérablement accrues.
Oui, tout à fait. Et c'est l'une des grandes décisions de Xi Jinping. Xi Jinping a pris quelques décisions stratégiques relatives à l'Armée populaire de libération. Ce qui me paraît le plus significatif, c'est la décision de transformer complètement le corps des Marines, donc les forces d'assaut amphibie de la marine de l'Armée populaire de libération, et que la Chine se dirige petit à petit vers un modèle qui est beaucoup plus américain. Au départ, les Marines chinois, c'était 20 000 troupes basées dans le sud de la Chine et qui étaient là avant tout pour, disons, du combat sur des îles tropicales. Donc avec à l'esprit un scénario taïwanais et un scénario en mer de Chine du Sud. Avec Xi Jinping, on a eu l'annonce d'une grande croissance du corps des Marines. Alors on va d'abord vers 30 000, on se dirigerait vers 100 000, ça reste la moitié de ce qu'ont les Américains, mais c'est véritablement un changement d'échelle. Et surtout, ce qui importe, c'est qu'on est face à un corps des Marines qui n'est plus là seulement pour défendre les intérêts de souveraineté chinois en Asie orientale, mais qui se projette dans une idée un peu plus expéditionnaire, c'est-à-dire défendre les intérêts de la Chine à l'étranger. Et ça nous amène à l'un des points du titre de notre émission aujourd'hui, Djibouti, puisque les Marines chinois ont été déployés à Djibouti. On voit bien qu'on est dans une logique de protection des intérêts de la Chine à l'étranger, au-delà seulement des questions territoriales en Asie.
On va venir évidemment à Djibouti, on va lui faire un sort, si je puis dire, Mathieu Duchâtel. Mais je reviens un petit peu en arrière. Janvier 2016, le président chinois, donc Xi Jinping, appelle à une grande réforme des forces armées susceptibles, je le cite, de remporter la victoire dans toute guerre moderne, affirmant vouloir faire de son armée une armée de classe mondiale, prête au combat. Est-ce qu'il y a quand même chez Xi Jinping une approche tout à fait nouvelle de ce que doit être l'armée populaire de libération, et en particulier précisément sur ses capacités, sa capacité à se projeter? Est-ce qu'il y a quelque chose, une rupture vraiment qui s'opère avec Xi Jinping?
Il y a une vraie rupture dans le paysage mental du monde sur lequel se repose la politique de défense chinoise. On était vraiment dans le régional, on est maintenant dans le global. On sentait que ça s'amorçait sous Hu Jintao. Alors en 2004, Hu Jintao annonce les nouvelles missions de l'Armée populaire de libération. Il y en a quatre. L'une de ces quatre missions, c'est la défense des intérêts à l'étranger. C'est les ressortissants, les investissements, mais on avait quand même une approche plutôt timide. Avec Xi Jinping, on a une vraie rupture, on parle de sécurité en Afrique, on a une approche complètement différente sur les bases à l'étranger, et puis il y a ce qui était dans l'introduction de l'émission, l'horizon 2050, 2049-2050, dans le rapport de Xi Jinping au congrès du parti, où il explique clairement que l'objectif de la modernisation de l'armée populaire de libération, c'est la classe mondiale en 2050.
La classe mondiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire la première armée du monde?
Alors la classe mondiale, certains l'expliquent comme la première armée du monde, c'est au moins une parité stratégique avec les Américains. c'est au moins être capable de faire ce que les Américains font. Ça veut dire de la projection, ça veut dire une capacité dans le domaine spatial, une capacité dans le domaine cyber. Ça veut dire l'application de l'intelligence artificielle aux opérations militaires. Il y a énormément de choses et l'horizon, c'est bien sûr la rivalité avec les Américains et au moins la parité stratégique.
Il y a une rupture, vous le dites, avec Xi Jinping, mais cette volonté au fond de moderniser l'armée, elle existait déjà avant, et cette prise de conscience que la Chine doit moderniser son armée et aussi lui permettre d'avoir des capacités de projection, elle est peut-être plus ancienne. Vous dites qu'il y a un déclic qui se fait au moment de la crise du détroit de Taïwan en 95-96.
Alors les années 90 sont véritablement crucial. Ouais. Et il y a deux choses qui provoquent un déclic. La première, c'est la guerre du Golfe et c'est la réalisation en Chine des capacités de projection américaines qui sont phénoménales. Et du retard, la prise de conscience du retard de l'armée populaire de libération par rapport aux opérations américaines. Et le deuxième grand moment, c'est la crise du détroit de Taïwan en 95-96. Lorsque les Chinois décident, pour intimider un petit peu les Taïwanais qui sont en phase de démocratisation et qui procèdent à la première élection au suffrage universel de leur président de la République, de tirer des missiles dans le détroit de Taïwan à proximité des ports pour leur envoyer un message de « surtout ne prenez pas la voie indépendantiste ». Là, les Américains, sous l'administration Clinton, décident d'envoyer des porte-avions dans le détroit de Taïwan. Les Chinois arrêtent leurs opérations, les élections présidentielles à Taïwan se passent comme prévu, c'est le moment charnière de la démocratisation. Et bien sûr, si les États-Unis et la Chine annoncent chacun avoir remporté une victoire, en réalité, du point de vue de Pékin, ce qu'on a bien vu, c'était que les Américains étaient capables d'intervenir dans le détroit de Taïwan et que la Chine ne pouvait pas y faire grand-chose. Mmh. Donc là, il y a un déclic. C'est à partir de ce moment-là que les dépenses deviennent vraiment plus importantes. Et puis surtout, il y a le choix lié à ce déploiement de porte-avions américains dans le détroit de Taïwan de développer ce qu'on appelle dans le jargon le déni d'accès. C'est-à-dire tous les éléments, tous les équipements qui vont permettre de dissuader les Américains d'intervenir à l'intérieur de cette première chaîne deal qui va du Japon aux Philippines en passant par Taïwan.
Et puis, ce qu'on voit aussi, Mathieu Duchâtel, c'est que cette ambition de projection, elle s'incarne aussi de façon très symbolique dans la nouvelle politique spatiale de Pékin aussi. On l'a vu par exemple avec l'alunissage récent d'un module chinois sur la face cachée de la Lune au tout début de l'année. C'était une première mondiale. Donc on voit que ce désir de projection chinois, il va jusqu'à la Lune et même au-delà. C'est symbolique, mais évidemment c'est très important. Jusqu'où aujourd'hui l'armée populaire de libération peut se projeter? Est-ce qu'aujourd'hui les avions, les navires, les sous-marins chinois peuvent toucher n'importe quel point du monde, atteindre n'importe quel point du monde?
Alors aujourd'hui, la force qui est stratégique pour la projection chinoise, c'est la marine, beaucoup plus que l'armée de l'air. La marine chinoise mène une diplomatie navale, on la voit partout dans le monde. Elle peut projeter sa puissance sur tous les points du globe. L'armée de l'air est un petit peu en retrait parce qu'elle a un problème de construction de ses capacités de ravitaillement en vol. Djibouti, c'est une base de la marine. L'armée de l'air n'a pas de base à l'étranger encore aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui dans une armée chinoise qui peut projeter ponctuellement une force amphibie à sur tout point du globe, mais qui a quand même plus de problèmes pour ce qui est de la projection aéroportée. À ce stade.
Alors, vous parliez de Djibouti. 2017, Pékin ouvre sa première base militaire à l'étranger. C'est à Djibouti. Je propose d'abord de faire un petit retour en arrière. On est en décembre 2015 et on va entendre le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, justement, donc à propos de l'accueil de cette base chinoise.
Les négociations se sont achevées. Cette base logistique sera installée à Djibouti. Prendra quelques temps pour son installation. Et donc c'est une base qui a pour objectif, bien entendu, comme vous le savez, la lutte contre la piraterie, la sécurisation avec les autres forces navales présentes à Djibouti du détroit de Bab el-Mandeb, et surtout la sécurisation des vaisseaux et des navires chinois qui passent et qui traversent ce détroit qui est extrêmement important pour tous les pays du monde. Les Africains vont continuer à consolider ce partenariat avec la Chine, au détriment peut-être des intérêts des autres pays. Et la responsabilité et la faute de ce manque d'équilibre n'est pas due aux Africains. Les Africains ont attendu pendant de longues décennies que les Européens et les autres viennent vraiment les appuyer dans le processus de développement. Et c'est la Chine qui fait ce travail. Et je crois que c'est une aubaine. On ne peut que se féliciter de cela. Et nous remercions le gouvernement et le peuple chinois.
Voilà, donc c'est parfaitement clair, hein, puisque les Européens, les Occidentaux n'étaient pas là pour assurer notre développement, eh bien, on a fait appel à la Chine qui, elle, y était prête, et donc la Djibouti a accepté l'arrivée de cette première base militaire chinoise à Djibouti. Réaction peut-être autour de ces propos, et puis on pourrait peut-être aussi dresser un premier bilan de cette base à Djibouti. On est maintenant quasiment 2 ans après, pas tout à fait. Est-ce que réellement ça a permis à Pékin d'accroître son influence chinoise sur l'ensemble de cette région?
Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à dire sur Djibouti. D'abord, c'est qu'à l'échelle de la politique étrangère chinoise, c'est vraiment une rupture. Il faut voir qu'avant Djibouti, ne pas avoir de base à l'étranger, c'était presque un marqueur de l'identité stratégique chinoise. C'est ce qui faisait différer la Chine des États-Unis, de certaines puissances européennes avec des bases à l'étranger. Et c'était très mis en avant dans la politique étrangère chinoise. On est différent. À partir de Djibouti, bien sûr, le discours a changé. La deuxième chose, c'est que effectivement, la Chine est à Djibouti avec une base navale, mais la Chine est aussi à Djibouti avec des investissements qui dans les infrastructures que personne d'autre n'est là pour accomplir. Il y a en plus de la base navale, il y a un port container à Doralé qui est stratégique pour Djibouti. Il y a aussi la voie ferrée Addis Abeba, Djibouti, que les Chinois ont construit. Donc on est vraiment dans une approche qui est au-delà de la simple présence sécuritaire. On est aussi dans une logique de promotion du développement de Djibouti. Et puis après, sur la base elle-même, alors les Chinois disent qu'elle remplit 3 fonctions. Elle est là pour faire du soutien logistique aux missions anti-piraterie dans le golfe d'Aden, où la Chine est depuis 2008. Mmh. C'est tout à fait vrai, la base est là pour ça. Elle est là aussi pour soutenir des opérations d'assistance humanitaire en Afrique orientale. Alors, la Chine l'a déjà démontré, puisqu'elle a envoyé son bateau hôpital l'année dernière faire de l'humanitaire à Djibouti et dans la zone. Elle est là aussi, c'est la 3e mission, pour le déploiement de casques bleus chinois dans la zone. Alors, elle l'a pas encore utilisé comme ça, mais on peut penser que ce sera le cas à l'avenir. Donc, évidemment, les raisons que donne la Chine pour cette présence à Djibouti sont des raisons qui sont tout à fait valables. Après, derrière ça, il y a une véritable question, et on en parlait autour des Marines avant, c'est ce que pourrait jouer comme rôle Djibouti en cas de crise dans la région qui implique des ressortissants chinois. Alors Djibouti, en 2015, a été utilisé par la marine chinoise lorsqu'elle a évacué des ressortissants du Yémen. C'est tout à fait un exemple qui pourrait se reproduire à l'avenir. Alors c'est un exemple d'évacuation, disons, assez facile d'une certaine manière. Enfin, c'est jamais facile, mais c'est-à-dire sans véritablement besoin de sécuriser une zone au Yémen, sans besoin d'un déploiement de troupes chinoises pour sécuriser un point d'évacuation. Donc d'une certaine manière, la Chine a été chanceuse dans son évacuation du Yémen. À l'avenir, il pourrait y avoir d'autres scénarios qui demanderaient des déploiements de moyens plus importants pour évacuer des citoyens.
Mathieu Duchâtel, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment même, Emmanuel Macron est dans la région. Il se trouve qu'il est en ce moment justement à Djibouti. On imagine qu'il a aussi pour objectif de contrer précisément cette montée en puissance de l'influence chinoise dans la région.
Oui, alors bien sûr, ces conseillers ont pas mal communiqué autour de la dimension chinoise de cette présence à Djibouti et puis ensuite en Éthiopie et au Kenya. Il y avait une véritable question de jeu d'influence. Je pense que du point de vue français, du fait de la présence historique de l'armée française à Djibouti et du fait de la présence très forte de la Chine dans les investissements d'infrastructures dans la région, on a vraiment une vision d'un jeu d'influence où la Chine devient de plus en plus influente. Et évidemment, ça ouvre le jeu pour l'avenir et ça met en question la présence des autres partenaires de ces pays africains.
Il y a une vraie inquiétude du côté français. Au printemps dernier, il y a une mission d'information du Sénat qui pointait le risque de voir les Chinois récupérer, je cite, « tout ou partie de la propriété des infrastructures de Djibouti », notamment les infrastructures portuaires, évidemment. Donc on voit bien qu'il y a une véritable inquiétude.
Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose qui est de plus en plus montré du doigt par Paris, par d'autres capitales, qu'il y aura des conséquences à plus long terme de cette présence chinoise dans des infrastructures stratégiques. Alors il n'y a évidemment rien dans le discours chinois qui permet de déceler une intention de prendre Djibouti et d'évacuer toutes les autres armées qui sont présentes sur place. Il faut dire quand même, au crédit des Chinois, qu'ils ont choisi Djibouti, qui est un endroit où il y a une présence américaine forte, une présence française, une présence japonaise. D'autres pays européens sont là. La Chine aurait pu choisir Oman, qui est juste à côté. Elle aurait été toute seule. Et la question se serait posée complètement différemment. Elle a choisi Djibouti dans une logique d'envoi d'un message de coopération, ce qui était très intelligent sur le plan de la communication au moment du choix de la première base navale.
Et est-ce qu'elle pourrait avoir le désir d'ouvrir de nouvelles bases ?
Alors pour moi, ça fait aucun doute, mais il y a une question de scénario et je pense que la Chine ne peut pas ouvrir des bases ici et là uniquement pour le plaisir d'ouvrir des bases. Il faut qu'il y ait une véritable logique opérationnelle. On a systématiquement dans les médias des rumeurs qui circulent autour de possibles lieux pour ces futures bases. Pakistan, Vanuatu, Sri Lanka, Seychelles, on a entendu énormément de choses.
Je pense que ça vous paraît plausible ?
Ça me paraît pas impossible, mais pour moi, il faudrait qu'il y ait une véritable justification opérationnelle non menaçante pour la communauté internationale à ce stade. Je dis pas que la Chine ne peut pas complètement changer d'approche, mais si demain elle disait j'installe une base navale à Gwadar, ce serait vraiment très agressif. Ce serait très agressif envers l'Inde, et c'est pas le cas à Djibouti. Donc Djibouti
Gwadar,
est un test.
C'est Pakistan.
Oui, bien sûr.
Oui, non, je précise pour les auditeurs.
D'accord. Oui, effectivement, Gwadar, une base chinoise à Gwadar, ce serait perçu, donc au Pakistan, ce serait perçu comme très menaçant.
Et l'hypothèse de Subic aux Philippines, là où il y avait l'ancienne base militaire américaine, dont sont partis justement tous les soldats américains dans les années 90, ça aussi, c'est une chose qu'on entend parfois.
Alors, Subic est un cas vraiment fascinant. À Subic, il y a eu, bien sûr, c'était l'une des grandes bases navales utilisées par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Il y a maintenant une compagnie de construction navale coréenne qui fait faillite et il y a une offre de rachat de la part des Chinois qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'on y décèle derrière peut-être une volonté de gagner du terrain à Subic. On n'est pas dans la construction d'une base navale chinoise aux Philippines. Mais effectivement, si vous pensez dans 30 ans...
C'est peut-être la première étape.
Si vous pensez dans 30 ans et dans une Asie complètement différente, avec une alliance Philippines-Chine, une présence navale chinoise à Subic, les Américains hors d'Asie, on peut tout à fait imaginer que c'est une configuration qui plairait beaucoup à Pékin.
Oui, il y a d'autres pays où on voit que la Chine est en train de poser comme ça, mettre le pied dans la porte. Je pense par exemple au Cambodge.
Effectivement, Sihanoukville, on
entend aussi
beaucoup parler.
Même le Sri Lanka, Sihanoukville, c'est le cas. Il y a même, je crois, des bâtiments militaires qui sont venus comme ça, juste en toute amitié, avaient dit les autorités chinoises, quelques jours sur le port. Alors évidemment, on ne voit pas demain une base s'installer ici, mais ça pourrait venir. On voit qu'il y a des premières étapes, des premiers jalons qui sont posés.
Bien sûr, on est vraiment dans un changement d'approche complet de la part de la marine chinoise. Mmh. Et elle aura besoin de plus en plus de points d'appui à l'étranger, ça fait aucun doute.
Alors, on parlait de Taïwan, il va falloir en parler peut-être un peu plus en profondeur. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait du discours de Xi Jinping. C'était il y a quelques jours, lors du 40e anniversaire de l'ouverture des relations entre la Chine et Taïwan. Écoutez.
Nous sommes prêts à négocier avec sincérité. Et nous allons faire tout ce qui est possible pour se rapprocher d'une réunification dans le calme et dans la paix. Mais nous ne pouvons pas promettre de renoncer à l'usage de la force. Nous nous réservons le droit de recourir à tous les moyens nécessaires.
Bon, alors c'est assez clair, Mathieu Duchâtel. Est-ce que Xi Jinping pense vraiment ce qu'il dit lorsqu'il n'écarte pas l'hypothèse de l'usage de la force sur Taïwan ?
Alors, il faut voir que la politique chinoise à l'égard de Taïwan n'a jamais exclu l'usage de la force. Donc, ce que fait Xi Jinping dans ce discours, c'est finalement de répéter une position...
De façon aussi affirmative ?
Alors oui, en 2015, par exemple, la Chine a adopté une loi anti-sécession qui posait plusieurs conditions qui pourraient amener à un usage de la force contre Taïwan, y compris une déclaration d'indépendance de la part de Taïwan ou l'épuisement des conditions qui pourraient amener à une réunification pacifique. Donc c'est extrêmement subjectif. Effectivement, l'option militaire reste une option. C'est pas pour tout de suite, c'est pas bien sûr la priorité ou le choix préféré de Pékin, mais ça reste une option et ça fait partie du message qui est systématiquement envoyé aux Taïwanais.
Mais quel pourrait être le scénario par lequel, effectivement, Pékin fait usage de la force ? Parce que vous expliquez très bien, Mathieu Duchâtel, qu'au cœur de la doctrine chinoise se trouve ce principe, qui consiste à ne jamais frapper le premier, le « no first use » en anglais. Alors, dans le cas de Taïwan, qu'est-ce qui pourrait faire que Pékin... Enfin, en tout cas, s'il reste aligné sur ce principe-là, c'est pas une simple déclaration d'indépendance qui pourrait pousser Pékin à faire usage de la force.
Alors, le No First Use, il y a vraiment une dimension nucléaire très forte.
Ou alors c'est à géométrie variable, cette philosophie.
Les différents interlocuteurs à Pékin disent depuis des années qu'une déclaration d'indépendance, c'est la guerre.
C'est un casus belli.
C'est vraiment un casus belli. Donc là, je pense que la Chine a été vraiment très très claire là-dessus. Elle le répète. Alors bien sûr, on pourrait tester les lignes rouges, mais je pense que c'est pas vraiment d'actualité. Le mouvement indépendantiste taïwanais, qui aujourd'hui est au pouvoir d'une certaine manière via le Parti démocrate progressiste et la présidente Tsai Ing-wen.
Arrivé au pouvoir en 2016.
Est vraiment un parti qui a une identité taïwanaise très forte, qui porte cette identité taïwanaise, mais qui s'est beaucoup modéré sur la possibilité d'une déclaration d'indépendance. Donc on est aujourd'hui dans un parti qui est pro-identitaire, profondément indépendantiste pour ce qui est de son idéologie, mais extrêmement prudent pour ce qui est de sa politique à l'égard de la Chine. Donc on n'est pas dans une configuration où les Taïwanais pourraient déclarer l'indépendance.
Ouais, donc on est prêt à renoncer à l'indépendance et maintenir le statu quo qui est au fond l'objectif de Pékin. Il faut que rien ne bouge. D'une certaine manière, c'est un peu l'idée générale avec Taïwan.
Alors, il y a une vraie question. Et je pense qu'il faut penser cette question en termes de calendrier. On a à Taïwan des élections présidentielles et législatives en janvier 2020, donc c'est quand même dans moins d'un an. L'objectif de la Chine, aujourd'hui, son objectif de court terme, c'est de favoriser une défaite des indépendantistes. Elle peut le faire par divers moyens. Alors, il y a des moyens qui sont un petit peu coercitifs. C'est vrai que l'idée d'une menace militaire liée à une victoire des indépendantistes fait partie du message envoyé aux Taïwanais. Mais il y a des moyens qui sont aussi plus incitatifs en termes d'opportunités économiques. Si le parti rival des indépendantistes, le Kuomintang, gagnait. Donc c'est cette idée qu'il y aurait aussi à gagner économiquement pour Taïwan en ayant une approche plus conciliatrice. Si on arrive en 2020, on a deux scénarios. Les indépendantistes restent au pouvoir. Là, il y a une vraie question qui se pose, je pense, sur ce que sera l'approche de la Chine. Parce que depuis 1995-1996, il n'y a pas eu de crise. La Chine a essayé divers moyens, des moyens incitatifs, plus de pression, travailler via Washington. Et puis finalement, rien n'a marché. Taïwan s'éloigne de manière inexorable et les indépendantistes sont réélus. On peut penser qu'il y a un mauvais scénario qui serait... un coup de pression militaire, sans aller jusqu'à une invasion.
Et comment réagiraient les États-Unis face à ce scénario du coup de pression militaire? On sait qu'il y a évidemment d'autres pays qui sont concernés dans la région. En mer de Chine méridionale, il y a des tensions absolument colossales avec des différents territoriaux, avec à peu près tous les voisins de la Chine. Jusqu'où, au fond, les Américains sont prêts à s'impliquer dans ce type de scénario? Que se passe-t-il si demain, effectivement, la Chine met le coup de pression militaire?
Alors, les États-Unis sont liés à Taïwan par le Taiwan Relations Act, un acte du Congrès américain qui les enjoint de contribuer à la défense de Taïwan. Ça, c'est pour les aspects, disons, juridiques. Il n'y a pas de traité puisque les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan. Après, les États-Unis sont véritablement derrière Taïwan. Ils les arment. La coopération de défense est très étroite. Et puis, il y a la grande question de l'administration Trump. Alors, l'administration Trump est perçue à Taïwan de manière très différente de la manière dont on l'aperçoit ici. Elle est perçue comme prévisible, elle est perçue comme très proche, et les Taïwanais disent aujourd'hui très bien travailler avec l'administration Trump. Donc la réponse rapide à la question, c'est pas de doute, les Américains seront là. Mais malgré tout, le doute subsiste. Le doute subsiste de manière structurelle. La question se pose systématiquement à Taipei, est-ce que les Américains viendront vraiment à notre secours s'il y a un coup de pression chinois? Et la question se pose d'autant plus du fait...
Pourtant, du côté américain, pardon de vous couper, mais on a l'air assez clair. Il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo était tourné dans la région. Il est allé notamment du côté des Philippines. Il a rencontré le président Rodrigo Duterte et il a dit que les États-Unis étaient prêts à défendre les Philippines contre toute attaque armée. C'est ce qu'il a dit très précisément. Je le cite, la mer de Chine méridionale appartenant au Pacifique, toute attaque armée contre les forces philippines, ses avions ou ses vaisseaux en mer de Chine méridionale, activera les obligations mutuelles de défense définies par l'article 4 de notre traité de défense mutuelle. Ils l'ont redit, ils iraient.
Tout à fait. Alors là, c'est vraiment une évolution très intéressante sur les Philippines. Sur Taïwan, la posture américaine aujourd'hui, sous l'administration Trump, est vraiment très forte. On est dans une posture de défense de Taïwan aujourd'hui.
Mathieu Duchâtel, on va revenir à la question des armements chinois et on va parler un petit peu d'aviation. En novembre dernier, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait la 12e édition du Zhuhai Air Show, qui est l'événement annuel au cours duquel l'armée chinoise expose, non sans fierté, ses armements les plus avancés. Et on y a présenté notamment le Chengdu J-20, littéralement l'anéantisseur 20, surnommé aussi le puissant dragon. Les médias chinois se sont évidemment extasiés sur cet avion chinois, mais assez peu ont mentionné le fait qu'il volait avec un moteur russe. Et comme vous avez l'oreille, vous avez reconnu bien sûr ce moteur russe, Mathieu Duchâtel. En fait, l'équipementier national, qui est Xi'an, n'a toujours pas finalisé la mise au point du moteur censé être installé dessus. Est-ce que c'est une simple anecdote, Mathieu Duchâtel, et que finalement tout ça sera très bientôt réglé? Ou est-ce qu'on a un problème du côté de l'industrie militaire chinoise avec une forme de dépendance vis-à-vis d'autres acteurs internationaux? Là, il se trouve que c'est un moteur russe qui est monté dessus. Est-ce que la dépendance est essentiellement vis-à-vis de la Russie? Enfin, je voudrais qu'on regarde un petit peu ça.
Oui, alors c'est vraiment un point extrêmement intéressant. Je pense qu'on est aujourd'hui face à des goulets d'étranglement plutôt que par rapport que face à un vrai problème structurel. La Chine a certains problèmes particuliers qu'elle n'arrive pas à résoudre de manière autonome avec son industrie de défense et la propulsion, en particulier les moteurs d'avion, est véritablement un point sur lequel elle a un problème qu'elle n'a pas réussi à résoudre.
Problème de propulsion aussi pour le naval.
Problème de propulsion pour le naval, problème de propulsion pour l'armée de l'air. C'est l'un des derniers goulets d'étranglement de l'industrie d'armement chinoise.
Et à quelle échéance la Chine peut espérer être totalement autonome?
Alors, la question de l'autonomie de la Chine en matière de moteurs d'avion, il n'y a pas vraiment de réponse claire, malheureusement, à ça. Ça reste un problème et qu'elle essaye de contourner. Et on voit bien dans ses acquisitions à l'étranger, sur les investissements chinois dans les technologies un petit peu sensibles, que cette obsession de l'autonomie en matière de moteurs d'avion se reflète dans beaucoup de choix faits par les investisseurs chinois qui essayent d'acheter élément par élément tout ce qui lui permettra de devenir autonome là-dessus. Sur les programmes en matière de recherche et de développement et sur la coopération avec les universités étrangères, avec les industries étrangères, on voit vraiment cette obsession de l'autonomie en matière de moteur.
Mais c'est étonnant, on comprend très bien cette obsession, mais on comprend moins pourquoi au fond l'autonomie n'est toujours pas acquise, compte tenu des moyens absolument colossaux que vous nous avez décrits tout à l'heure au début de l'émission. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'industrie chinoise est toujours dépendante?
Alors, la question des moteurs d'avion.
C'était une priorité dans la modernisation de l'armée. Mmh. L'un des piliers de cette modernisation, c'est mettre le paquet sur l'industrie nationale.
Mmh. Oui, mais alors, il suffit pas de dépenser de l'argent. Voilà la réponse simple à cette question. C'est que la construction de moteurs d'avion, c'est une tâche technique extrêmement difficile, qui n'est pas purement une question de recopier un plan. Qu'il y a toute une infrastructure derrière de construction des moteurs et que la Chine n'en est pas là et qu'en même temps les constructeurs d'avions y compris français, européens qui sont déjà là avec une capacité de produire des moteurs d'avion, je pense par exemple à Safran en France, font des progrès de leur côté, donc que cette course à l'innovation elle est accomplie avec un départ bien en avance de la part des industriels occidentaux.
Et vous pensez qu'à terme, quand même, l'industrie chinoise pourrait concurrencer justement les industries occidentales? Évidemment, je pense aux États-Unis.
Bien sûr, c'est l'objectif. On attend le jour où la Chine deviendra complètement autonome en matière de moteurs d'avion.
On est toujours avec vous, Mathieu Duchâtel, dans cette série consacrée aux militaires. Aujourd'hui, de Taïwan à Djibouti, l'armée populaire chinoise sur tous les fronts va s'intéresser aux capacités nucléaires chinoises.
Aujourd'hui, pour le 15e anniversaire de la République populaire chinoise, l'ambassadeur Wang Chen offrait une réception et, fait rare, ouvrait les portes de sa maison au tout Paris. À Pékin, atmosphère beaucoup moins mondaine. Un demi-million de personnes ont défilé sur l'immense place de Tiananmen devant Mao Tse-tung, Liu Shaoxi, Chu Enlai. La Chine, grande puissance militaire par le nombre de ses divisions, va-t-elle bientôt avoir la bombe atomique? Le gouvernement américain l'affirmait il y a 3 jours, peut-être non sans arrière-pensée politique ou même électorale, pour désamorcer les effets psychologiques possibles de la future bombe chinoise et aussi ceux de M. Goldwater. Aujourd'hui, à Pékin, on dit « pure invention ».
Voilà, archive du 1er octobre 1964, pure invention. Il se trouve que c'est quelques jours plus tard qu'il va y avoir le premier essai nucléaire. On va retrouver un nouvel invité, Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et puis auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment Corée du Nord plongée au cœur d'un état totalitaire alerte. Mais tiens, d'abord, on disait il y a quelques instants avec Mathieu Duchâtel, on parlait de cette doctrine chinoise et de ce principe du no first use, c'est-à-dire on ne frappe jamais en premier. C'est évidemment un principe qui vaut dans le domaine du nucléaire, rassurez-nous.
Alors, c'est un principe qui vaut avant tout dans le nucléaire, puisque c'est le cœur de la doctrine nucléaire de la Chine aujourd'hui. L'idée étant que la Chine n'aura pas donc d'initiative nucléaire de première frappe, attendra de recevoir une frappe avant d'y riposter. Et ce qui, évidemment, va ensuite conditionner le développement des capacités chinoises, puisqu'il faut non seulement être capable d'encaisser une première frappe, mais ensuite d'y riposter.
Antoine Bondaz, il y a beaucoup d'interrogations sur les capacités nucléaires réelles de la Chine. Est-ce qu'on a un peu une idée là du nombre de têtes dont Pékin dispose, et puis aussi une idée de justement ce qui a été développé dans les récentes années en matière de nucléaire?
Alors, il y a une réelle opacité sur les capacités nucléaires militaires de la Chine. Alors, on a évidemment des informations. Le premier test avait été réalisé en 64, c'était notre archive. Le dernier en 1996. Depuis, la Chine aurait un peu moins de 300 armes, à peu près en réalité le même stock que la France. Mais surtout, il y a un profond effort de modernisation pour plusieurs raisons, et c'est ce que j'expliquais en introduction. L'idée étant que la Chine doit non seulement pouvoir encaisser une première frappe, riposter, et que les missiles chinois notamment puissent atteindre leur cible. Alors pour cela, la Chine a historiquement avant tout insisté sur sa composante terrestre, c'est-à-dire ces fameux ICBM ou autres tirés depuis une plateforme terrestre. Et puis il y a de nouveaux programmes désormais qui sont pour certains un peu plus anciens, comme la composante océanique, qui vise à développer justement des SNLE qui auraient une crédibilité pour riposter des frappes étrangères, mais aussi un nouveau programme de bombardier stratégique, c'est-à-dire une composante aérienne.
Donc, si je vous entends bien, Antoine Bondaz, finalement, c'est pas, là je vous demandais le nombre de têtes nucléaires, c'est pas forcément la problématique pour Pékin. L'aspect quantitatif des choses n'est pas aussi essentiel qu'on pourrait l'imaginer du côté de la Chine, mais ce qui est important, c'est surtout d'améliorer au fond la performance des missiles, la performance des dispositifs de lancement. C'est plutôt ça sur lequel on met le paquet, si je puis dire, Antoine Bondaz.
Exactement. Ouais. L'accent, il est mis avant tout sur le qualitatif, c'est-à-dire être capable de percer les défenses antimissiles américaines, être capable d'endurer une frappe, c'est-à-dire on va durcir les silos de missiles chinois, etc., plus que accroître l'arsenal, puisque la Chine continue de se présenter et continue de présenter sa capacité de dissuasion nucléaire comme une dissuasion limitée, mais efficace. Ensuite, il y a des arguments économiques. Développer un arsenal nucléaire, c'est extrêmement coûteux. Les Américains et les Soviétiques le savent bien pour l'avoir fait dans les années 60 et 70. Deuxièmement, il n'y a pas la volonté chinoise pour l'instant d'atteindre une parité nucléaire avec les États-Unis et la Russie. Ce serait extrêmement compliqué. Le cœur de l'objectif de la modernisation nucléaire de la Chine, c'est d'atteindre une vulnérabilité mutuelle avec les États-Unis en premier lieu, mais aussi avec la Russie.
Et est-ce qu'elle est en phase de rattrapage, justement? Je vous pose la question parce que très récemment, c'était en août dernier, Pékin, et on en a beaucoup parlé, a procédé à un essai de missile supersonique, capable de voler, nous dit-on, à plus de 7000 km/h. Et donc, extrêmement difficile, a priori, à intercepter. Ça veut dire concrètement que Pékin peut atteindre n'importe quelle cible dans le monde, à coup sûr. Et est-ce que ça veut dire qu'on est dans les mêmes capacités que ce qu'on a en face, et en particulier du côté américain?
Alors, le niveau de développement chinois n'atteint pas aujourd'hui le niveau de développement américain, c'est extrêmement clair. Est-ce que la Chine peut atteindre l'ensemble du territoire américain à travers ses ICBM, donc ses missiles à portée intercontinentale? Oui, elle le peut. Elle développe notamment de nouvelles classes de missiles, notamment le DF-41, qui est un ICBM extrêmement mobile. En attendant, voilà, on a un effort de rattrapage, on n'est encore pas au niveau. Et par exemple, sur la composante océanique, les SNLE, donc ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois, sont bien en deçà des capacités américaines, et c'est un réel problème pour la Chine.
Vous restez avec nous, Antoine Bondaz. Mathieu Duchâtel, vous vouliez réagir?
Oui, alors je voudrais rajouter deux choses à ce que dit Antoine. C'est que du point de vue de Pékin, il faut voir qu'on est face à un équilibre qui est quand même très changeant. Et il y a deux choses qui ressortent vues de Pékin. D'abord, sur la composante missilière de la dissuasion nucléaire, c'est que la Chine fait face aux défenses antimissiles. Et le déploiement de la défense antimissile de théâtre, SAD, en Corée du Sud, est véritablement un problème pour les capacités de dissuasion chinoise et pour ce que disait très bien Antoine Bondaz, c'est-à-dire la quête d'une survivabilité, d'une capacité de seconde frappe. Et le deuxième point où la Chine se sent aussi vulnérable, sur la composante océanique cette fois-ci, et ça nous ramène à la mer de Chine du Sud, c'est que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois basés à Hainan doivent quitter l'île de Hainan pour entrer en mer de Chine du Sud, pour peut-être se déployer après dans l'océan Pacifique, et qu'aujourd'hui la Chine n'a pas du tout confiance en ses capacités à accomplir cette sortie non détectée par les Américains de la base de Hainan. Donc on est vraiment dans un équilibre mouvant entre tout ce qui est dissuasion nucléaire, capacité de dissuasion nucléaire, et tout ce qui est fait par les Américains pour dégrader la capacité chinoise.
Antoine Bondaz, vous êtes un spécialiste des questions nucléaires. On a discuté d'ailleurs ensemble il n'y a pas si longtemps de cette question de la fin du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui avait été signé à la fin des années 80. Il se trouve que Donald Trump a décidé de se retirer de ce traité. D'ailleurs, c'est pas forcément sans lien avec justement la montée en puissance des capacités nucléaires chinoises, visiblement. Peut-être que le différent se trouve davantage ici. Mais au-delà de cette question-là, il se trouve qu'il y avait un traité, qu'il y a d'autres traités sur le nucléaire qui ont été mis en place, qui ont été signés entre Washington et Moscou. Je pense notamment au traité à l'accord New Start sur la réduction des armes nucléaires qui avait été signé au début des années 2010. Est-ce que ce genre de traité, la Chine serait prêt à le signer? Est-ce qu'un contrôle sur son arsenal nucléaire est envisageable?
Alors, clairement pas d'un point de vue chinois, du fait notamment, non seulement de la faiblesse, comme le rappelait Mathieu, de la dissuasion chinoise, mais surtout de l'asymétrie en termes d'effectifs, en termes quantitatifs. La Chine n'acceptera pas de réduire ses capacités nucléaires si les Américains continuent d'avoir 20 fois plus ou 30 fois plus de têtes, concrètement, que les Chinois. Donc, pour l'instant, les Chinois ont toujours refusé d'évoquer des traités de contrôle des armements bilatéraux ou encore moins trilatéraux avec la Russie. L'enjeu à assez court terme, ce serait plutôt que la Chine ratifie, par exemple, le traité d'interdiction des essais nucléaires. Les Américains ne l'ont pas ratifié également. Ce sont les deux puissances du P5, donc les deux puissances reconnues comme puissances nucléaires, qui ne l'ont pas ratifié. Elles l'ont signé, mais pas ratifié. Il y a les enjeux d'un traité international pour interdire, ou en tout cas pour arrêter la production de matières fissiles. C'est plus peut-être sur ce genre de traité qu'il y aura des avancées que sur une réduction des arsenaux chinois.
Antoine Bondaz, peut-être une toute dernière question, et pour regarder aussi l'aspect politique de la chose, si je puis dire, il y a le volet sécuritaire, mais il y a aussi le volet politique. Est-ce que vous diriez que il y a chez Xi Jinping une nouvelle manière de concevoir la place de l'arme nucléaire dans le dispositif sécuritaire chinois global? Et est-ce que ça peut être un argument politique pour lui?
Alors, il y a eu une réforme très importante de l'armée, et la création d'une armée des lanceurs permet de sanctuariser et de donner de l'importance à l'ensemble des capacités balistiques de la Chine, qu'elles soient nucléaires et conventionnelles. Mmh. Au-delà, je dirais que le lien qui est fait par le secrétaire général du parti actuel, Xi Jinping, c'est le lien entre le nucléaire et la science et, entre guillemets, la fierté nationale. Vous aviez dans le discours de nouvelle année du secrétaire général Xi Jinping, il y a deux mois, la mention d'un scientifique chinois qui s'appelle Lin Junde, qui est extrêmement intéressant puisque ce n'était pas forcément le scientifique le plus connu du programme nucléaire chinois, mais c'est un scientifique chinois qui a été formé en Chine, contrairement à d'autres comme Chen Tanchang, etc. Et donc le message envoyé par le parti, c'est de mettre en avant des scientifiques chinois formés en Chine et qui font en quelque sorte la grandeur de la Chine. Et dans ce cadre-là, les forces nucléaires chinoises vont être utilisées à des fins politiques.
Merci infiniment Antoine Bondaz d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur ces capacités nucléaires chinoises. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, et que vous êtes auteur, entre autres, de Corée du Nord plongée au cœur d'un état totalitaire alerte, qui était paru aux éditions du Chêne en 2016. Un grand merci à vous, Antoine Bondaz. On va retrouver un autre invité pour parler de services secrets et d'espionnage. Roger Faligaud, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes journaliste, ancien correspondant pour l'Asie d'Intelligence Online et puis auteur d'un ouvrage intitulé « Des services secrets chinois de Mao à Xi Jinping » qui était paru aux éditions Nouveau Monde en 2015. On a expliqué dans cette émission, Roger Faligo, combien la Chine avait accru ses ambitions en matière militaire en passant d'une armée essentiellement tournée sur son propre territoire, sur des enjeux intérieurs, vers une armée de projection, de classe mondiale, pour reprendre l'expression de Xi Jinping. Est-ce que c'est une évolution qu'on a notée aussi dans le domaine des services secrets? Est-ce que l'espionnage chinois a repoussé, j'allais dire, les limites de son terrain de jeu lui aussi?
Déjà, il y a un problème de définition. Je pense que c'est un peu réducteur de parler d'espionnage. Il y a d'une part l'énorme structure civile, si vous voulez, de sécuritaire interne. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a, en même temps que la restructuration de l'armée populaire de libération, il y a eu une restructuration également des services de renseignement militaires à l'échelon de la direction, de l'état-major, et ensuite de la formation d'une force spéciale de soutien qui est essentiellement liée aux opérations de renseignement.
Et qu'est-ce qu'on a changé en particulier? C'était quoi l'ambition de Xi Jinping, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette évolution, de cette restructuration des services?
Tout à fait. D'une part, vous vous souvenez, je crois que Mathieu Duchâtel l'a très bien expliqué, que on a abandonné les 7 régions militaires, on a structuré des zones de combat qui sont beaucoup plus larges. On a également décidé de, si vous voulez, centraliser un certain nombre de systèmes opérationnels qui étaient très fragmentés avant. Je prends un exemple simplement. À l'état-major, qui est maintenant un état-major interarmes, on a un chef adjoint d'état-major qui est responsable de tout le secteur renseignement. Il aurait eu avant un deuxième département qui est un peu le deuxième bureau, si vous voulez, de l'armée populaire. Eh bien, par exemple, cette structure avait, parmi toutes ses prérogatives, le soin de s'occuper des drones. Parce que le drone, ça pouvait être une unité, ça pouvait être du matériel pour faire du renseignement. Aujourd'hui, on a déporté toute l'armée des drones, on en a créé véritablement une armée, et on l'a mise sous contrôle de ce qui est la structure de guerre électronique, d'interception et même de cyberguerre, et donc qui est le troisième département. Alors, vous me direz, c'est purement technique, mais pas tout à fait, parce que ça suppose aussi d'envisager de façon beaucoup plus stratégique qu'avant les interventions du renseignement. Il faut dire, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la marine, que ce qui est intéressant, c'est que c'est un sous-marinier d'ailleurs qui est le chef du secteur central de renseignement auprès de chef d'état-major de l'armée. Et ça n'est pas tout à fait un hasard.
C'est-à-dire, c'est pas un hasard. Ça rejoint la question que je vous posais de ces capacités de projection aussi des services secrets chinois.
Oui, tout à fait. En sachant qu'en même temps, si vous voulez, on n'est pas tout à fait dans le secret, on est dans le renseignement, ce qui est un peu plus large. Les services secrets, ça n'est qu'une fraction des services spéciaux qui conçoivent aussi les actions des forces spéciales, du renseignement en eau profonde, si on peut dire. À ce titre, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le secteur renseignement de l'armée populaire de libération, son chef est en même temps l'espèce de chef de la diplomatie parallèle de l'armée à côté de la diplomatie officielle, si vous voulez, de la République de Chine.
Donc ça veut dire qu'on lui adosse un rôle très politique.
En même temps, vous verrez cet amiral Su Tianguo. Soutien-Guo aussi bien aller à Washington et parler avec un certain nombre de correspondants, si on peut dire, américains, que de faire partie de la structure spéciale qu'a mise en place Xi Jinping sur la sécurité nationale. Alors là, vous retrouverez d'autres patrons des services de renseignement de contre-espionnage, par exemple le Guanbu, on pourrait dire l'espèce de KGB chinois, ou la sécurité publique, et puis beaucoup d'autres structures qui sont un peu à la façon d'un Conseil national de sécurité.
Roger Faligo, tout à l'heure, on parlait de la base militaire de Djibouti. En matière de renseignement, la Chine a aussi des ambitions d'aller poser, j'allais dire, des dispositifs de renseignement à l'étranger. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé de ce dispositif d'écoute chinois placé sur une annexe de l'ambassade de Chine en France, en pleine région région parisienne, à Chevilly-Larue. C'était une information qui avait été dévoilée par l'Obs. Ce type de dispositif, est-ce qu'il peut être placé sans l'accord direct ou tacite du pays concerné? C'est-à-dire que de la même manière que tout à l'heure sur Djibouti, on voit bien que l'État de la République de Djibouti était parfaitement d'accord pour accueillir cette base militaire. Est-ce qu'on peut dire que là, d'une certaine manière, même si on ne le dit pas, évidemment que la France a accepté d'avoir ce dispositif de renseignement chinois sur son propre territoire?
Non. Pour la France, non. Pour la France, c'est des accords diplomatiques. On peut pas aller rentrer dans une ambassade et savoir qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériel. Absolument toutes les ambassades à Paris, par exemple, ont des systèmes d'interception d'écoute, à commencer par les Américains, les Britanniques, etc. Par contre, pour Djibouti, c'est intéressant ce que vous posez comme question, parce que c'est avant même que la base soit organisé, il y avait eu un accord, un protocole d'accord entre le gouvernement de Djibouti et justement les Chinois pour une première structure petite au départ, mais d'interception et d'écoute à Djibouti. Et ça, ça avait été élucidé, enfin mis au jour par la DGSE française, qui évidemment c'est assez simple puisqu'ils sont à côté, au point de vue proximité, je dirais, militaire. Mais c'est ce qui est assez intéressant, parce que c'est ce que font les Chinois absolument partout, dans des pays d'Amérique latine particulièrement et d'Afrique. Ce sont des accords qui sont d'ailleurs avec des grands équipementiers aussi de téléphonie, des spécialistes des problèmes technologie d'interception, où ils se mettent en accord avec les gouvernements en question, les ministères de l'Intérieur des pays en question, pour organiser des stations d'écoute. Et alors, en même temps que Djibouti, en 2008, par exemple, on avait assisté à exactement la même structure qui avait été mise en place au Mali, en République démocratique du Congo et au Zimbabwe.
Mathieu Duchâtel, en guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission.
Alors, sur les aspects espionnage et renseignement, je crois que Roger Faligo fait une distinction qui est très importante. La Chine va avoir de plus en plus besoin de renseignements opérationnels pour mener ces opérations de projection. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Tout croît avec le budget de l'armée. Et puis sur les aspects plus espionnage, je pense qu'on peut difficilement attendre de la Chine qu'elle pratique la retenue au fur et à mesure que sa puissance se déploie. Et j'en donnerai pour exemple quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Il y a eu un accord signé avec l'administration Obama il y a quelques années. Alors là, c'était pour le hacking avec une dimension économique. Aujourd'hui, l'administration Trump le dénonce. La chancelière allemande Merkel parle d'un accord qu'on pourrait signer avec la Chine pour de la retenue. L'expérience américaine montre que c'est très difficile.
Ça vous plaît, Mathieu Duchâtel, hein?
Très bon choix.
C'est Lili Chao. Le titre, c'est « Je souris à chaque fois que je te vois ». On pourrait traduire comme ça. Merci infiniment, Mathieu Duchâtel, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes auteur de Géopolitique de la Chine. Un grand merci également à Roger Faligo, qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je rappelle le concernant les services secrets chinois de Mao à Xi Jinping. C'était aux éditions du Nouveau Monde. Il est 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors quel bilan peut-on dresser de la commission Juncker? Comment restera-t-elle dans l'histoire, une grande ou une petite commission? Voilà les questions sur lesquelles vous vous penchez.
On ne peut juger cette commission actuellement sur le départ que par rapport aux intentions et aux objectifs énoncés par son président lors de sa prise de fonction en 2014. Le luxembourgeois Jean-Claude Juncker apparaissait alors très désireux de se distinguer de son prédécesseur, le portugais José Manuel Barroso. Barroso était considéré comme un technocrate, déférent envers les chefs de gouvernement des États membres, dirigeant une commission politiquement faible et peu transparente. Sitôt installé au bâtiment Berlaymont à Bruxelles, le siège de la Commission européenne, Juncker lui annonça un principe et de nouvelles méthodes de travail. Le principe, being big on big things, small on small things. Les gens en ont assez de nous voir réglementer la taille et la puissance des ampoules électriques, tandis que l'Europe semble absente des grands défis, comme celui du numérique ou du chômage. La méthode de travail, il la qualifia de top-down, Il s'agissait de rendre le pouvoir aux commissaires européens sur les hauts fonctionnaires, qui sont théoriquement à leur service, les fameuses directions générales de la Commission. En outre, Juncker innova en regroupant les départements en équipes de projet sous l'égide des vice-présidents qui disposent ainsi d'une sorte d'autorité déléguée. Et il créa aussi le poste de premier vice-président qui était attribué donc à un travailliste néerlandais, Frans Timmermans. L'objectif était de piloter une commission plus politique que technique, plus transparente aussi, en étroite collaboration et sous le contrôle démocratique du Parlement européen. Mais ces intentions ont été en partie dérangées par le cours des événements. Durant la présidence Juncker, ce n'est pas la Commission qui a pris les initiatives politiques les plus décisives, mais bien le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. C'est parce que, face aux crises, à l'événement, à l'imprévu, bref, au retour de l'histoire, il faut agir avec le plein accord des gouvernements nationaux. Mais Juncker n'était pas tenu à l'écart des débats en leur sein, puisque en tant que président de la Commission, il est membre de droit du Conseil européen et il a participé à animer ces débats. En Allemagne et dans certains autres pays du nord de l'Europe, cela lui a valu des critiques. La Commission Juncker, aspirant à devenir politique, je l'ai dit, on y a estimé qu'elle avait créé du désordre. On l'a aussi accusée d'avoir été trop complaisante envers la France en acceptant de sa part des entorses aux règles budgétaires qui étaient refusées à d'autres.
Quel a été, Brice, le plus grave échec de la commission présidée par Jean-Claude Juncker ?
Sans hésitation, je vous répondrai, c'est la gestion de la crise des migrants en 2015. L'idée de quotas de migrants par État membre ayant été refusée en réalité par un très grand nombre de pays, pas seulement à l'Est mais aussi au Sud, Juncker y a épuisé une partie de son capital d'autorité. Selon les termes employés par cet écrivain néerlandais que je citais hier encore, Luc van Middelaar, l'idée de Juncker était celle d'une irrigation. Mais ce qu'il a emporté, ce fut celle du barrage. Et il raconte fort bien, van Middelaar, comment l'UE, d'abord impuissante, a fini par réagir énergiquement. Et Jean-Claude Juncker y a joué, dans cette affaire, un rôle déterminant. C'est lui qui, par une lettre du 25 janvier 2016 au Premier ministre slovène, annonce que les États membres et les autres, comme la Macédoine, peuvent dorénavant fermer leurs frontières aux migrants. Le verrouillage des frontières de l'UE a eu lieu à partir de ce moment-là dans les Balkans occidentaux et l'Union européenne ayant fait la preuve de sa détermination à bloquer des flux qui allaient s'amplifiant en direction de la Grèce, elle a pu obtenir enfin de la Turquie une négociation sérieuse sur le blocage des départs. C'est toujours sous le coup des événements que l'Union européenne progresse. On le voit bien dans le domaine de la défense. Les tweets menaçants de Donald Trump envers des Européens qui se considèrent trop aisément comme des protégés des États-Unis sans assumer leur part du fardeau commun inquiètent les dirigeants européens. L'attaque de la Russie contre notre voisine, l'Ukraine, la fréquence des cyberattaques contre des intérêts européens, le terrorisme aussi, ont sonné l'alarme dans l'Union. On parle à présent d'autonomie stratégique européenne. Un fonds européen de la défense vient d'être créé. Il sera doté d'un budget conséquent, puisque c'est quand même 13 milliards d'euros sur la période 2020-2027. Mais pour autant, les incantations rituelles en faveur de la création d'une armée européenne demeurent vides de sens. Français et Allemands qui s'y réfèrent dans leurs discours n'entendent pas la même chose sous ce slogan. Pour Berlin, c'est une façon de manifester la volonté allemande d'intégration européenne, vue de Paris. Une manière d'affirmer que les Européens sont prêts à assumer la défense des intérêts spécifiques en toute indépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais cette position, celle de la France, demeure isolée en Europe. Car plus on se rapproche de la frontière orientale de l'Union, plus on continue à muser sur la garantie de la sécurité américaine, en espérant que Donald Trump ne soit peut-être pas réélu en 2020.
Merci beaucoup Brice Couturier. On rappelle peut-être pour les auditeurs donc le livre dont vous avez fait mention, « Quand l'Europe improvise » de Luc van Middelaar qui vient de publier chez Gallimard. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.